Ben, bonjour Julie-Pierre, on enregistre notre balado pour le blog POSOC19 aujourd'hui. On est le 8 juillet 2020, puis là ici au Texas, il est tout près de 14 heures, donc à Montréal tout près de
15 heures.
15 heures. On se présente, moi je suis Alexandre Couture-Gagnon, professeure à l'Université du Texas Rio Grande Valley, à la frontière là, avec le Mexique. Des régions actuellement les plus affectées par le coronavirus. Puis, ce sont vraiment nos réflexions à chaud, là. Je souhaite mettre tous ceux qui vont nous écouter en garde. On fait notre possible, mais on va peut-être se récuser d'ici une ou deux semaines, mais on pensait, ou 6 mois, on pensait que c'était important de prendre en note ce qu'on vit actuellement. Et toi, Julie-Pierre, je te laisse te présenter.
Oui, Julie-Pierre Nadeau, je suis candidate au doctorat à l'Université du Québec à Montréal. Donc, je travaille sur les États-Unis, mais d'un œil un peu plus extérieur parce que je n'y vis pas, contrairement à Alexandre. Par contre, je m'intéresse énormément à la politique américaine, puis je travaille aussi à la chaire Raoul Dandurand en études diplomatiques et stratégiques. Donc, voilà, j'ai accepté la proposition d'Alexandre de parler de la situation aux États-Unis aujourd'hui parce que on en entend beaucoup parler, mais ça peut être intéressant de regarder peut-être un peu plus pourquoi la problématique est devenue aussi grande aux États-Unis. Donc, peut-être une petite mise en situation en commençant sur l'état des lieux où on en est en ce moment. 8 juillet aux États-Unis, au moment où on enregistre le podcast, parce que les chiffres montent toujours, les États-Unis sont près de dépasser le cap des 3 millions de cas, selon les données de Johns Hopkins. Ils sont rendus au-dessus de 131 000 morts, toujours selon Johns Hopkins. Et selon le New York Times, en ce moment, il y a 37 États plus Puerto Rico qui sont en hausse du nombre de cas, donc une hausse du nombre de nouveaux cas presque partout aux États-Unis. Donc c'est un peu la situation. Je ne sais pas comment c'est sur le terrain pour toi, Alexandre.
Oui, mais au Texas, si moi, chaque fois que je regarde les données, je suis envahie par la peur, là. Hier, il y avait 10 000 nouveaux cas. Puis si on compare avec le 1er mai, quand le gouvernement du Texas a déconfiné, là, on était à 1 000 nouveaux cas par jour. Donc là, tu sais, ça a décuplé, là, littéralement. Puis bon, dans la région où je me trouve, là, tous les hôpitaux, sauf deux, pour une région d'1 million, sont en diversion, donc ils acceptent pas les ambulances, ou en tout cas essaient d'encourager les ambulances à aller ailleurs. Un autre exemple anecdotique, là, à l'université, on a un message d'erreur comme quoi probablement qu'on peut pas recevoir des appels téléphoniques parce que la clinique de l'université reçoit tellement d'appels pour des cas de COVID-19 que les lignes sont surchargées, puis ça fait littéralement cracher le système téléphonique de l'université en
OK.
entier. Moi, je pense que c'est rétabli, là, mais ça a été le cas pendant plusieurs jours. Pour avoir un test ici, à moins d'aller dans une clinique privée, mais plusieurs personnes qui n'ont pas d'assurance médicale, donc pour avoir un test, là, dans les cliniques publiques, c'est, je crois, environ une semaine d'attente pour obtenir un rendez-vous si on a des symptômes, puis après une semaine pour obtenir les résultats, là, ou quelque chose comme ça. Donc les délais sont longs. Puis on sent un certain sentiment de panique dans les journaux locaux. Le personnel médical dit que les hôpitaux sont surchargés, puis que le personnel est à bout. Il y a du personnel qui est arrivé de d'autres régions du Texas, mais le personnel, c'est vraiment ce qui peut finir par manquer, là.
Et on sent tristement aussi que c'est pas la seule région au pays qui est comme ça en ce moment. Il y a d'autres villes, il y a des régions de la Floride aussi qui craignent d'ici 2 semaines de manquer de place dans les hôpitaux. C'est peut-être un problème qui est moins immédiat, mais on voit avec les nombres de cas en hausse que ça va devenir un problème rapidement ailleurs au pays, particulièrement dans le sud, l'Arizona aussi, qui a énormément de cas en ce moment. Donc, c'est une situation qui est difficile. Et ben, depuis le début de la pandémie, en fait, on entend souvent le message comme quoi les États-Unis ont été un peu inactifs. pour traiter la pandémie, pour prévenir la pandémie. En fait, on blâme souvent l'administration Trump, mais il faut savoir en fait que la mise en œuvre des politiques aux États-Unis, c'est assez complexe parce qu'il y a différents paliers de gouvernement. Les autorités sanitaires sont au niveau fédéral, au niveau des États, mais aussi au niveau des villes. Donc, ça fait beaucoup de paliers de gouvernance à démêler. Je ne sais pas si vous voulez nous expliquer peut-être un peu comment c'est mis en œuvre concrètement.
C'est vraiment compliqué, hein? Le président Trump, finalement, il est pas tout puissant. Des fois, il donne l'impression qu'il est tout puissant, mais par rapport à la pandémie, puis certainement qu'il pourrait avoir un ton plus positif, là, puis il pourrait utiliser son leadership au sein du Parti républicain, il pourrait faire bon, toutes sortes de choses, là, commencer à porter un masque, arrêter de démoniser la CDC, l'Agence de santé. Des États-Unis, mais au-delà de ça, il ne peut pas faire un confinement généralisé pour les États-Unis. Il ne peut pas réduire le transport entre les États. Ça, il ne peut pas faire ça. Puis, en plus de ça, il y a, ouais, comme tu le disais, là, dans les États, il y a des. C'est super compliqué. Nous, le comté ici avait décrété certaines mesures. Ensuite, le gouverneur Abbott a dit que son décret, son executive order, remettait en question, donc faisait un re, rendait les ordres des comtés non valides. Donc là, il y a une espèce de dichotomie là, qui devient vraiment dure à lire. Puis là, dans notre comté, récemment, le chef du comté, certains chefs du comté ont trouvé une façon d'avoir accès, de forcer les gens à porter des masques dans les entreprises, dans les commerces. Abbott a dit qu'ils avaient toujours eu le droit de faire ça, mais ils ne l'avaient jamais dit clairement. Donc, il y a vraiment une. C'est pas clair. Ben, c'est pas clair qui prend le leadership de la situation, puis c'est pas clair quelles recommandations les citoyens doivent suivre. C'est pas clair si les citoyens suivent pas une recommandation locale, s'il y a une amende qui est possible ou pas. Il y a eu le cas de la coiffeuse là, qui a réouvert Luther, qui a réouvert son commerce de coiffure, puis là, Abbott a soudainement changé d'avis sur ses propres décisions, puis elle a pas eu à aller en prison. Donc, tout change très rapidement, puis il n'y a pas une personne qui nous dicte quel comportement on doit adopter.
C'est
Ça
vrai que
va. Ouais, pardon.
c'est mêlant, mais c'est aussi une question, on sent que c'est une question de leadership d'un côté, mais c'est aussi une question de blâme parce que des fois on entend Donald Trump dire, écoutez, ben c'est aux États d'agir, c'est pas moi comme tu dis qui peut coordonner tout ça, les États doivent prendre les décisions. Il y a des États qui ont agi plus que d'autres, d'ailleurs concernant la pandémie, il y a aussi des États à défaut d'avoir une coordination au niveau fédéral qui ont essayé de se coordonner entre eux. Puis ça a été le cas, c'est un peu moins le cas maintenant, mais ça a été le cas lors du déconfinement, le premier déconfinement, les régions. La côte ouest s'était coordonnée ensemble, le Midwest s'était coordonné ensemble et des États de la Nouvelle-Angleterre aussi s'étaient coordonnés ensemble pour essayer de déconfiner de façon coordonnée pour éviter justement que s'il y a des déplacements entre les États, bien ça ne crée pas de regain d'infection ou quoi que ce soit. Puis, mais encore aujourd'hui, il y a des mesures qui tiennent toujours. Le New Jersey, l'État de New York et le Connecticut ont une mesure commune qui demande en fait aux gens qui voyagent provenant d'États qui sont plus infectés en ce moment, si on peut dire, demande aux voyageurs de ces États-là de se mettre en confinement 14 jours s'ils viennent à New York, au New Jersey ou au Connecticut. Donc, il y a quand même certaines mesures de coordination, mais effectivement, c'est un peu un cafouillis, c'est un peu difficile à mêler. Et pour le citoyen moyen, mais c'est difficile de savoir comment agir, quels sont les risques, quelles sont les consignes qu'on doit suivre. Ça devient difficile à suivre tout ça.
Oui, puis ça remonte pas un peu là, au. En tout cas, c'est peut-être un petit peu caricatural, là, mais ça va de pair avec une certaine partie de l'idéologie états-unienne où l'individualisme prime. Puis ça, c'est pas tout le monde qui pense comme ça aux États-Unis. Bon, à l'heure actuelle, là, c'est en fait. hyper polarisé quand on regarde les données des sondages, mais les républicains ont tendance à être un peu moins inquiets du coronavirus que les démocrates, à penser que les choses vont s'améliorer. Quoique là, les prochains sondages, j'ai hâte de les voir parce que Trump perd beaucoup de cotes de popularité, notamment auprès de ses électeurs de 65 ans et plus à cause du coronavirus, là. Mais il y a toute cette question-là là, de l'idéologie, des libertés individuelles qui sont très, 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 très importantes pour une certaine partie de la population.
On l'avait vu aussi plus tôt ce printemps avec les manifestations contre le confinement ou pour le déconfinement. Il y a eu des manifestations dans certains États qui ont fait pression sur les gouverneurs pour réouvrir l'économie. Des gens qui disaient, écoutez, si moi je prends le risque de tomber malade, bien, c'est mon problème. Laissez-moi rouvrir mon commerce, laissez-moi reprendre mes activités, reprendre mon travail parce que les pressions économiques que je subis présentement, pour moi, sont plus importantes que le risque de contracter la COVID-19. Donc, pour plusieurs personnes, c'était l'enjeu, mais on voit, comme tu le dis, que c'est une réflexion individuelle qui prône sur peut-être le bien collectif, d'essayer de protéger la communauté, des gens qui aussi sont allés témoigner contre le port du masque dans des audiences publiques, notamment en Floride. Ça sonnait un peu caricatural par moment, mais des gens qui disaient, écoutez, si moi je veux pas me protéger, c'est mon problème, vous pouvez pas me forcer, vous pouvez pas m'obliger. Et c'est ça, comme tu dis, on sent que c'est très ancré dans cette espèce d'idéal de liberté individuelle qui est fondamentale aux États-Unis et qui est peut-être plus exacerbée qu'ailleurs. Donc, de l'extérieur, ça peut sembler un peu aberrant que les gens tiennent à ce point-là à leur liberté individuelle, mais pour le peuple américain, c'est assez commun, en fait.
Oui, c'est aussi rationnel pour les Américains pour les Texans, de revendiquer des libertés individuelles quand on en vient au déconfinement. Parce que l'assurance santé des Texans, il y a au moins quelques 20% des Texans qui n'ont pas d'assurance santé du tout. Le Texas n'a pas accepté l'expansion de Medicaid, le Texas n'a pas accepté Obamacare, le financement du fédéral. Donc, ces personnes n'ont pas d'assurance santé. Non seulement ça, 40% des Texans, j'ai vérifié dans le US Census Bureau avant notre balado, 40% des Texans n'ont pas de congé de payé s'ils sont malades. Donc, tomber malade, c'est vraiment une responsabilité individuelle. Puis déjà, au Texas, il y a 15% de pauvres. Ça, c'est le seuil du département de la santé et des services sociaux, services humains. Le PIB par habitant est au-dessous de la moyenne du pays. Donc déjà, les gens, grandes inégalités sociales, une bonne partie de la population qui souffrent ou qui ont de la misère à arriver, même en temps normal. Donc là, on rajoute à ça la pandémie. Bien entendu, ces personnes-là n'auront pas nécessairement envie de se déconfiner ou d'écouter les ordres les plus restrictifs ou les recommandations les plus restrictives du gouvernement. Un des exemples flagrants, mais je pense que j'en ai parlé au début du balado, c'est l'exemple de la coiffeuse au Texas, Luther, qui ne voulait pas se déconfiner, puis il y a un bon rationalisme là, derrière tout ça.
Tout à fait. Puis, disons, on parle de l'individualisme, mais ce n'est pas non plus la seule raison pourquoi c'est compliqué de mettre en œuvre toutes ces mesures-là aux États-Unis. Il y a aussi tout l'aspect des données scientifiques. Et là, ça, ce n'est pas un problème qui est unique aux Américains. On le sait. Tous les pays dans le monde en ce moment marchent un peu à tâtons. On le voit, plus il y a de preuves, plus il y a d'études qui sont avancées, plus on réajuste en fait les politiques publiques. Mais c'est peut-être ce qui est peut-être particulier aux États-Unis, par contre, c'est ce rapport-là à l'expertise, parce qu'on le voit dans les points de presse, il y a un contraste entre ce que dit le président, ce que dit le vice-président Mike Pence aussi, et ce que disent les autorités de santé publique. Public, qui sont peut-être le mieux représentés par le docteur Fauci, on sent que derrière des portes closes, ces gens-là ne doivent pas s'aimer beaucoup. Là. C'est des gens qui se contredisent énormément. On le sent que le docteur Fauci veut essayer de fouetter un peu l'élite politique et dire, écoutez, vous devriez mettre plus de mesures, il y a encore moyen d'agir. On aurait dû agir plus vite, mais maintenant, on peut peut-être limiter les dégâts. Et donc, qu'est-ce que tu penses justement de cette façon qu'ont les autorités d'utiliser ou non les preuves scientifiques quand on parle de mesures sanitaires ou de mesures de prévention.
C'est difficile, hein? Là, Trump espérait vraiment, je pense, puis même chose pour Greg Abbott, le gouverneur du Texas, espérait vraiment qu'en déconfinant, il y aurait une relance de l'économie. Quand les premières données sur le taux de chômage sont sorties, la pandémie était catastrophique pour l'économie américaine, l'économie texane. Puis là, la CDC, l'Agence de santé publique des États-Unis, recommandait, entre autres, dernièrement, probablement des meilleurs systèmes de ventilation, plusieurs recommandations très coûteuses pour réouvrir les écoles en septembre. Puis Trump, il n'est pas allé de main morte, là, menace essentiellement les écoles ou les États qui ne souhaiteraient pas réouvrir en septembre, donc permettre aux parents de retourner travailler. Les menaces de fonds moindres ou en tout cas d'autres punitions. Puis c'est probablement la même chose, quoique là, il y a des contestations judiciaires, donc ce sera au cours de décider, là, de juger. Mais pour tous les étudiants internationaux qui viennent dans les universités américaines, il y en a beaucoup, qui n'auraient pas le droit de venir, qui n'auraient pas le droit d'obtenir leur visa, qui n'auraient pas le droit de venir aux États-Unis ou de prendre des cours même dans les universités états-uniennes en septembre, si les cours ne sont pas en personne, on sent que l'administration Trump veut forcer les universités à réouvrir leur campus pour donner signe que la pandémie est sous contrôle, que le coronavirus n'est pas si pire que ça. C'est directement lié, en tout cas, semble directement lié aux élections de novembre 2020, là, où Trump va jouer son deuxième mandat.
Oui, tout à fait, parce que c'est peut-être ça le contexte le plus particulier qui distingue les États-Unis en ce moment du reste du monde, c'est que les États-Unis sont en élection. On le sait, l'année électorale est toujours pleine de rebondissements aux États-Unis, mais cette année, avec le contexte de pandémie, c'est particulier, d'autant plus que Donald Trump, si on regarde janvier, février, s'enlignait pour baser sa campagne de réélection sur la force de l'économie américaine, parce qu'on se rappellera que l'économie allait très bien avant la COVID-19, et donc, mais là, se retrouve sans arguments de vente pour essayer de briguer un deuxième mandat. Et on sent que ça teinte aussi les décisions, oui, du président, mais aussi d'autres politiciens qui sont eux aussi en réélection. Et ça vient créer un contexte qui est très particulier, qui rend la situation encore plus difficile à naviguer.
Oui. Moi, j'ai hâte de voir, Julie-Pierre, ce que les cours vont décider par rapport à la possibilité de voter par la poste pendant les prochaines élections, là, mais surtout les élections de novembre 2020. Personnellement, ça m'inquiète un peu. Mais toi, est-ce que t'es inquiète à partir de Montréal? Est-ce que t'es inquiète pour tes voisins du Sud?
C'est certain qu'on voit les nouvelles, on voit les chiffres défiler, on voit la situation qui augmente, on voit la carte de Johns Hopkins avec les bulles qui n'arrêtent pas de grossir de jour en jour, et aussi le contraste entre les cartes qu'on voit, le nombre de cas aux États-Unis et le nombre de cas au Canada. Effectivement, la population n'est pas la même, mais c'est certain qu'il y a plusieurs Canadiens qui s'inquiètent de la réouverture de la frontière aussi, éventuellement. Donc, c'est une situation préoccupante, c'est une situation qui est inquiétante. Je pense qu'il y a aussi une espèce d'élan de compassion parce qu'on sait à quel point le système de santé ou l'accès aux soins de santé n'est pas le même aux États-Unis. Je suis allée vivre au Texas quelques mois, puis j'ai vu déjà le contraste. Ça change la réflexion qu'on a sur est-ce qu'on va chercher des soins ou non. Donc, dans un contexte de pandémie, ça ne doit pas être facile. Mais c'est certain que, comme le reste du monde, j'ai l'impression, on regarde ce qui se passe aux États-Unis en ce moment et on espère que la situation s'améliorera bientôt.
Ah, c'est une belle conclusion pour le balado. Ah, merci, Julie-Pierre.
Merci, Alexandre.